la pause maternelle. Bonjour et bienvenue dans la pause maternelle sur Macalade. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Cette émission est destinée aux mamans afin de parler sans tabou de sujets en lien avec leur maternité et des sujets qui peuvent toutes nous toucher. Le but de cette émission est de leur permettre de se libérer de leur vécu. Chaque mois, nous recevons le témoignage d'une maman, soit en direct, soit de manière anonyme, pour échanger autour de son expérience. Je suis Élodie, fondatrice de Doucela, et je suis accompagnante périnatale, et je suis accompagnée de Lucille, qui est musicothérapeute clinicienne au cabinet Laissons Naissance. Bonjour Lucille, comment ça va aujourd'hui ?
Bonjour, bah écoute, ça va, très contente de faire cette émission avec toi encore une fois.
Et aujourd'hui, nous allons retrouver Alison, qui était déjà venue témoigner dans l'émission d'octobre. Elle revient nous raconter sa redécouverte de la maternité, pour ceux qui ont écouté l'émission d'octobre. Elle nous avait partagé sa première maternité. Et voilà, et du coup, on n'avait pas eu le temps forcément d'aborder la deuxième, qui a été totalement différente. Et du coup, elle a redécouvert, beaucoup de choses, mais elle a aussi connu la culpabilité d'avoir l'impression de ne pas savoir faire et des choses qu'elle aurait dû savoir faire, si je peux dire comme ça, même si tout n'est pas inné quand on devient maman. Donc voilà, donc deux naissances complètement différentes, avec des émotions qui sont complètement différentes également. Bonjour Alison, comment vas-tu ?
Je vais très bien, et vous ?
Bah ça va, écoute, ravie de te retrouver pour une deuxième émission, ça va être chouette.
Oui, moi aussi.
Et bah écoute, je te laisse commencer à nous raconter un petit peu et nous parler de ta deuxième maternité qui a, comme je disais dans l'introduction, été totalement différente de ta première.
Oui, tout à fait. Alors, déjà pour commencer, j'ai eu cette fois-ci un bébé d'été. Donc la DA était très différente.
Oui, contrairement au mois de novembre pour la première.
Exactement. Ça a été très différent parce que sur la fin de la grossesse, cette année-là, en plus, il faisait très chaud. Ma fille, elle est née au mois de juin. Donc sur le mois de juin, j'en pouvais plus. J'ai cru vraiment que j'avais... c'était pas possible. J'avais des choux tout le temps dans mon corps. Je me sentais lourde. La dernière fois, j'ai déjà parlé du cachalot échoué sur le canapé. Mais là,
effectivement.
Après, je pense que toutes les mamans qui ont accouché en été vont te comprendre.
On a tous cette image et voilà, et les transpirations et compagnie autour.
Exactement. Non, et puis les jambes qui gonflent. En plus, sur cette deuxième grossesse, j'ai eu des remontées gastriques. J'étais, je vais pas dire shootée, mais presque au gaviscon.
Ouais, ok. Gaviscon était ton meilleur ami.
Exactement, tout à fait. Non, mais c'était juste, c'était hyper désagréable. C'est quelque chose que j'avais pas expérimenté la première fois. Et vraiment, par rapport à la première fois, alors je sais pas si c'est parce que c'était l'été, mais j'avais cette espèce d'urgence que. Il fallait qu'elle sorte, quoi. Enfin, genre, il fallait que ça se termine. J'étais vraiment dans cette optique-là. Je pense que... je pense que la chaleur y a joué pour beaucoup, hein, mais...
Ouais, en général, ça joue, hein. C'est plus difficile de supporter une fin de grossesse en plein été avec les grosses chaleurs.
Ah oui, enfin, vraiment... On avait le ventilateur, mais enfin c'était juste, c'était très dur. Donc bon, je passe la grossesse parce qu'en soi, j'ai une grossesse qui s'est vraiment super bien passée. J'ai vraiment pas de difficultés ou quoi sur cette deuxième fois. Et contrairement à la première fois, j'ai pas eu forcément besoin autant de mon ami l'application que la première fois parce que du coup, je l'avais déjà expérimenté. Ce qui a été différent du coup aussi, c'est que j'avais déjà ma première fille, donc à vivre aussi c'était un petit peu différent parce que autant la première fois, on est vraiment très concentré, entre guillemets, sur soi et sur ce qui se passe. Autant là, cette fois-ci, ben, moins, puisque mon autre fille, elle avait 2 ans et demi, Rebecca.
Oui, donc tu étais déjà bien occupée.
Oui, exactement.
Et comment toi tu le verrais ça? Parce que moi je sais que je l'ai aussi vécu, ce côté d'avoir le deuxième enfant, enfin qui sont plus ou moins rapprochés, parce que même 2 ans, 2 ans et demi, c'est quand même assez rapproché. Mm. Comment tu l'as vécu ça, du coup, sur l'espèce de focalisation, enfin en tout cas de focale qui se décentre, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup là il n'y a plus juste un enfant, il y en a deux. Et que ton, enfin moi je sais que je me rappelle d'avoir, de m'être dit, putain, mais en fait de réaliser que en fait là mon temps allait devoir être divisé en fait, et qu'il y avait des choses que j'avais fait pour la première que je ne pourrais peut-être pas faire pour le deuxième parce que je suis une personne. C'est là qu'on découvre qu'on n'est pas Wonder Woman et que c'est juste génial, mais que du coup voilà, on peut pas être tentaculaire et qu'il va falloir compartimenter et faire en sorte d'organiser. Est-ce que ça s'est passé de la même manière pour toi ou pas?
Alors moi je pense que c'est arrivé mais après. Pas au moment, à proprement dit, de la grossesse.
Ah oui.
Tu veux, pendant la grossesse, c'était plus... effectivement, je peux pas, entre guillemets, être autant centrée sur moi et mon ressenti que la première fois. Sachant que, alors, de mon point de vue, j'ai trouvé aussi que le père de mes enfants, mon mari... n'avait pas aussi la même attention que la première fois. Donc, il y avait vraiment ce truc, bon, ben, je dois gérer, en fait. Je sais pas si vous,
c'est ce que, du coup, tu penses que dans sa tête, il l'avait déjà vécu aussi, enfin, du coup, c'était...
Alors, je sais pas si c'était ça. L'impression que ça m'a donnée, c'est qu'il y avait d'autres choses, entre guillemets, sur lesquelles il fallait porter son attention, parce que ben un deuxième enfant, c'est des charges supplémentaires, il faut pouvoir l'accueillir. L'aspect financier, en tout cas, de mon point de vue, encore une fois, je pense qu'il y avait ce truc de je suis en responsabilité et donc moins dans le soin et dans l'accompagnement.
Ouais, déjà il y a deux choses, c'est qu'il y a plus cette excitation de la nouveauté qu'on a à l'arrivée du premier. C'est vrai qu'on sait pas du tout à quoi s'attendre, que ce soit du côté du papa qui lui n'a pas du tout, enfin il a vécu différemment les 9 mois de grossesse, donc c'est vrai que c'est encore totalement abstrait, donc il y a une certaine excitation, et nous on ressent une autre excitation parce du fait que nous on vit la grossesse de l'intérieur, et voilà, donc il y a deux excitations différentes. Et avec un deuxième enfant, troisième, quatrième, avec un autre enfant, ben, c'est plus la même excitation parce qu'il n'y a pas cette nouveauté-là. Et autre chose, il y a aussi une certaine pression sur les épaules des papas, mine de rien, dans notre société, c'est que c'est l'homme qui ramène l'argent. Je dis pas que c'est normal qu'on ait cette image-là, mais c'est vrai que c'est une image qui est encore énormément ancrée, malgré qu'on soit en 2025 et que les choses évoluent. Et les papas, ils gardent quand même énormément cette pression de faut que je gère sur le plan financier, parce que sinon, je suis pas capable de gérer mon foyer, quoi.
Bon, après, on en parlait avec Aymeric aussi, à ce niveau-là, sur l'autre émission, la précédente émission, sur le fait que la place qu'on adjoint aussi au papa, c'est aussi à eux de la prendre d'une certaine manière, de retourner un peu les cartes et tout ça, puis aussi aux femmes de laisser faire, et puis d'aller faire les choses qu'elles ont envie de faire. Donc c'est pas, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Moi j'aime bien le côté aussi de revenir sur le fait qu'il y ait... que sur le deuxième, troisième, quatrième enfant, il n'y a pas cette même excitation. Alors moi, je pense que je dois être complètement extraterrestre, parce que vraiment, à chaque grossesse, c'était une nouvelle excitation.
C'est une nouvelle excitation. Elle ne peut pas être identique, parce que c'est un premier enfant, puis après un deuxième. Mais il y a aussi l'excitation du nouveau. Là, on va avoir 2 enfants, ce ne sera plus un, mais 2
à gérer. Oui, c'est ça. Puis même de revivre quand même certaines sensations, les petites bulles dans le ventre, quand est-ce qu'il va donner un coup? Est-ce qu'il va bien? Enfin, moi, j'avais toujours une espèce d'agenda de grossesse qui faisait qu'à ce moment-là, Du coup, si ces paramètres-là sont bons, et ben du coup, ça fonctionne et c'est chouette, quoi. Voilà, me maintenir en santé. Enfin,
oui.
Voilà, il y avait ce truc-là que je trouvais assez sympa. Je rejoindrais Lio là-dessus, qui elle en a eu 7 et qui elle disait qu'à chaque fois, elle était super contente. Et je pense que c'est pas plus on en fait et plus on est en contente. Hein, détendez-vous. Ça, vous n'êtes pas obligé d'en avoir plein. Juste un, des fois, ça suffit, c'est très bien. Et c'est même souvent, ça suffit pour juste se sentir ce truc-là. Ça sert à rien d'accumuler, je veux dire. Mais du coup, cette nouveauté, elle peut quand même apparaître. Par contre, moi, je vivais la redite sur la maternité, sur le fait d'être à l'hôpital et du coup, les allées-venues et puis l'allaitement et tout ça. Voilà, le retour à la maison. Là, il y avait des choses.
Mais
je sais pas comment toi, tu l'as vécu, Alison, mais voilà.
Ben, moi, l'hôpital, ça a été assez nouveau, du coup, par rapport à la première fois, puisque... comme je le disais dans la précédente émission, ma première fille est restée en néonat pendant 15 jours, alors que cette fois-ci, j'ai eu un accouchement normal, assez rapide. Je crois qu'elle est sortie en moins de 20 minutes.
Fais bien attention aux minutes que tu vas mettre là, parce que là, du coup, il y a toutes celles qui souffrent aujourd'hui, qui sont en train de t'écouter sur Raté. Elles se disent, on va se détendre pendant le travail. Elles en sont à leur 16e, 18e heure, et toi, t'arrives, elle est sortie en 20 minutes.
Je me permets de te couper, Alicia, je me rappelle que t'as une notion du temps quand même assez raccourcie par rapport à d'autres femmes, comme quand, dans la première émission, tu nous as dit que t'étais tombée enceinte assez rapidement et que ça avait pris 6 mois qui peuvent paraître énormes pour d'autres femmes.
Oui, bon, après 20 minutes, c'est quand même vraiment rapide, mais c'est vrai qu'elle a une notion très laxe du temps. Non, on charrie, hein, mais voilà, juste une pensée de solidarité pour toutes celles qui souffrent, en fait, Alison.
Alors, je ne dis pas que tout le travail a duré 20 minutes, c'est pas ce que je dis. Je dis que la poussée, en fait, pour qu'elle sorte. Voilà, elle est sortie en moins de 20 minutes, là où la première, ça a été plus de 30 minutes. Donc, c'est pour ça, je fais la différence. Et en fait, ça a été relativement rapide au niveau de la poussée. Après, à l'hôpital, je suis arrivée, j'étais à 6 ou 7 cm déjà. Okay. Donc, je n'ai pas attendu hyper longtemps. À l'hôpital.
T'avais fait une grosse partie du travail déjà chez toi, en fait.
C'est ça, exactement. Ce qui a changé, c'est que cette fois-ci, je suis partie seule, puisque mon mari a dû aller déposer ma fille chez mes beaux-parents. Donc, je suis arrivée à l'hôpital, c'était toute seule. Je suis partie en ambulance et tout. Donc après, j'étais là, je disais, entre guillemets, je croisais les jambes jusqu'à ce qu'il arrive, quoi.
Alors, déjà, de 1, je trouve que la super chose à relever, c'est que il y a une organisation qui est différente à ce moment-là, c'est que de prévoir. Je le dis pour celles qui prévoient leur valise, là, en ce moment. Vous avez donc votre valise avec tout ce qu'on vous met comme liste, hein, parce que vous savez pas ce que vous devez mettre dans votre valise. Donc, vous mettez ça, plus le fait de prévenir des amis, votre famille, pour pouvoir garder le premier, le deuxième ou le troisième, parce que ça peut générer du stress et ça peut être quelque chose qui le paramètre auquel on n'avait pas pensé. Par contre, après, je tiens à le dire, serrer les jambes, ça sert à rien. Voilà.
Il sortira quand même.
Il sortira quand même, que vous le vouliez ou non, parce que c'est une expression physiologique, comme de déféquer, de faire pipi ou de vomir. Normalement, et j'ai utilisé des jolis mots, hein, donc soyez quand même affables et sur le fait que j'ai... Voilà, hein, on peut noter.
Comme dirait Michel Audan, c'est un réflexe.
C'est un réflexe.
Et on ne peut pas aller contre un réflexe.
Le hockey. Mais on essaie de bloquer le hockey, alors qu'en fait, on peut très bien le laisser passer. Après, il y a du hockey pathologique qui fait que du coup, quand ça ne s'arrête pas, vous allez aux urgences. Mais on n'en est pas là. J'essaie de ne pas dramatiser la chose, mais voyez donc, ça ne sert donc à rien pour qu'on reste dans le sujet, hein. Arrêtez de serrer les jambes parce que ça ne marche pas. Non, ce n'était pas le but de l'émission. Hein. C'était pas ça. Hein.
Non. Et puis de toute façon, le corps te signifie que, enfin, tu peux, enfin, entre guillemets, prier tout ce que tu veux. Si ça doit sortir, ça va sortir.
Tu es pris surtout pour que ça sorte correctement et que tu sois bien à la fin.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, tout s'est bien passé. Mon mari est arrivé avant.
Et, c'est bon, t'as assez serré les jambes.
J'aime bien le sourire derrière. Voilà. Regardez comme j'ai géré. Mais oui.
C'est ça. Et en fait, ce qui a été très nouveau pour moi, c'est tout l'après. Parce que comme la première, elle est partie en néonat juste après l'accouchement, et ben toute l'expérience de j'ai mon bébé avec moi dans la salle, je fais la tétée de, enfin la présentation du sein tout de suite, je remonte avec elle, je dors avec elle, et ben en fait tout ça c'était nouveau pour moi. Et à l'hôpital, comme ils savaient que, enfin dans mon dossier, c'était indiqué que j'avais déjà eu un enfant, ils partaient tous du principe que je savais déjà ce que je devais faire.
Avant qu'on te laisse aller plus loin, j'aimerais bien qu'on revienne sur la notion d'accouchement normal dont tu nous as parlé tout à l'heure.
J'adore le mot normal. Tu pourrais l'expliciter, tu sais que j'adore le mot normal.
Voilà, si tu peux juste nous dire quelques mots sur ton accouchement que
normal.
Alors, c'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai également eu la péridurale. J'étais plus du tout dans la DA. Oui, mais je veux que ce soit le plus naturel possible. Je ne veux pas. Non, j'étais plus du tout là-dedans.
Donnez-moi la piqûre.
Non. Voilà, c'est ça. Ça avait changé par rapport à la première fois. Donc, j'ai eu la péridurale, j'ai eu les poussées. J'ai pas eu besoin de faire intervenir, comme la première fois d'ailleurs, les forceps ou quoi que ce soit. Donc, l'expulsion s'est fait naturellement. Voilà, c'est en ça. Je veux dire que c'était normal.
Ok. Ah ouais, donc en fait, c'était juste pour. Je voulais appuyer un peu là-dessus pour dire qu'en fait, ce qu'on appelle accouchement normal, c'est un accouchement naturel qui se fait donc sans perfusion d'ocytocine, sans intervention médicale. Donc il y a la péridurale, mais à un moment donné. On a droit aussi de prendre la péridurale. On a inventé la péridurale pour nous soulager, donc c'est OK. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'il faut dissocier l'accouchement naturel qui se déclenche naturellement et le travail se fait naturellement et tout ça de l'accouchement médicalisé.
D'accord. Oui, donc non, j'ai pas eu d'accouchement médicalisé. Donc comme je disais, par rapport à la première fois, ma première fille a inhalé ses premières selles quand elle était dans mon ventre, donc elle est partie tout de suite en néonate, et en fait, la deuxième, c'était, entre guillemets, normal. Il n'y avait rien, elle était en bonne santé, et en fait, j'ai eu à expérimenter plein de nouvelles choses en fait pour un deuxième bébé. Effectivement, la présentation du sein dans la salle d'accouchement, le fait qu'elle reste sur moi, ce que j'avais pas eu la première fois. La première fois, elle est partie avec son papa et je suis restée seule dans la salle. Je me souviens parce que j'ai pleuré. Mais là, non, elle était là.
Et qu'est-ce que tu as ressenti au moment où on te pose ton bébé sur toi et les premiers regards, les premiers échanges de regards?
Alors, moi, j'étais très soulagée, en fait. Soulagée, mais je pense que c'est dû à la première expérience.
Oui.
J'étais soulagée cette fois-ci. Genre, tout va bien. Là, ça va. Genre, elle va pas partir. Je vais pas. Enfin, elle va rester avec moi. Il y avait pas de. Il y avait beaucoup de soulagement.
T'as eu peur en fait que ça puisse se passer de la même manière que la première fois.
Oui, voilà. Donc moi, j'étais vraiment soulagée. Elle va bien. Elle a crié, machin. Enfin voilà, c'était tout ça.
Ok.
Et donc on l'a posée sur moi. Elle est restée sur moi. On a fait la présentation du sein tout de suite, là où la première fois, c'était pas le cas. Expérimentation de la première tétée, et puis j'ai dit, ah ouais, d'accord, ok, c'est comme ça. voilà.
Oui, ce réflexe qu'ils ont à la naissance, alors je ne sais pas si ta fille sait ce qui s'est passé ou pas, mais quand on laisse faire les bébés, qu'on les pose sur le ventre de la maman, ils ont le réflexe de ramper jusqu'au sein et de trouver naturellement le sein eux-mêmes. Est-ce que non, tu ne l'as pas vu?
Non.
Eh ben, fais un troisième. On se connaît avec Alison. C'est pour ça que des fois, je lui envoie des petits pics. On s'aime bien.
Donc.
Revenons-en à nos moutons, quand même.
Non, en fait, on me l'a mis directement, en fait, près de mon sein. Et l'idée, c'était, bon, sortez votre sein et mettez-vous dans la bouche, quoi. C'était plutôt ça.
OK.
Donc, non, ce que tu viens d'expliquer, non, j'en avais jamais entendu parler, d'ailleurs. Donc, intéressant. Je j'en ferai pour mes enfants plus tard.
pour le prochain. Maintenant, souvent en maternité, surtout sur des maternités qui sont ouvertes à l'allaitement et qui sont formées à l'allaitement, surtout, souvent ils laissent faire les choses. Ils ne mettent pas bébé au sein parce qu'ils savent très bien que bébé sait aller au sein tout seul.
D'accord.
Je vais me permettre de vous interrompre pour qu'on fasse une petite pause musicale, si vous le voulez bien.
Yeah.
Je suis un peu là pour ça, de toute façon. Donc, voilà. À tout de suite.
À tout de suite.
Voilà pour la pause maternelle sur Calade avec Alison, notre rendez-vous maternité mensuel tous les premiers lundis du mois. Donc Alison, tu es revenue nous voir pour nous parler de ta maternité. Et là, tu avais choisi de parler de la différence entre tes deux maternités. Je te laisse poursuivre.
Oui, merci. Donc j'en étais à cette phase de l'allaitement, donc la présentation, enfin la première présentation au sein. Et puis oui, ça a été assez nouveau parce que en fait elle est restée sur moi pendant un certain moment, chose que j'avais pas expérimentée avec la première. Et donc finalement pour moi tout était nouveau, tout était tu vois, tout à l'heure, Lucille, quand tu parlais de cette expérience un peu, cette euphorie de la nouveauté, c'était là, en fait, mon euphorie de la nouveauté.
Ben oui, mais ce qui est complètement normal, en plus. Enfin, voilà, je veux dire...
C'est ça, et c'était... Mais en même temps, c'était un peu flippant parce que je pense que quand c'est la première fois, on est peut-être plus accompagné, mais là, comme elle savait que j'avais déjà eu un bébé... Je pense qu'elle s'attendait à ce que, elle sait, quoi. Genre,
et dans ton dossier, c'était pas noté qu'il y avait eu...
Normalement, néonate, c'est noté.
Si, c'est noté, mais après, tu sais, je pense que c'est toujours pareil. Quand on est dans la chambre après, les infirmières, elles passent, elles repassent, mais bon, elles ont plein de gens...
Oui, et puis... Souvent, ils lisent les dossiers en diagonale, de toute façon.
Et je crois que c'est le moment de faire un petit peu mon petit truc sur le Et s'il y avait plus de personnel hospitalier pour pouvoir relayer les infirmières, les auxiliaires de puériculture, les sages-femmes qui manifestent depuis tellement longtemps qu'en fait elles ont besoin d'aide, les gynécologues, obstétriciens aussi. En fait, je pense tout le monde de la santé qui a besoin d'aide pour pouvoir venir en aide aux personnes et donc, par exemple, apporter des soins appropriés sans être en stress, en burn-out ou alors mettre fin à leur carrière de manière prématurée parce que, en fait, ils n'en peuvent plus. Voilà, c'était mon petit moment militant, mais on est sur Radio Calade, donc en fait, à un moment donné, si on ne le dit pas là, et bien, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire du tout, donc c'est dommage. Donc je préfère le dire là. Donc je pense que là, si la personne n'a pas pu lire ton dossier, si plein d'infirmiers et compagnie ne lisent pas, c'est pas parce qu'ils ont envie d'être je m'en foutiste, c'est parce que je pense qu'ils...
Ils n'ont pas le temps.
Ils n'ont pas le temps, et que du coup, il faut leur donner les moyens.
Oui, oui, enfin, je ne me suis pas forcément... entre guillemets, trop poser de questions là-dessus. C'est plus que je l'ai constaté. Et c'est vrai que toute cette partie où on prend soin, par exemple, du cordon ombilical, tout ça, en fait, enfin,
et oui.
Au niveau du nombril et tout, enfin, tout ça, je n'avais pas fait. J'étais aussi, comme la première fois, mais pour des raisons différentes, j'étais un peu paralysée par rapport à cette histoire de bain, alors que oui, l'autre, enfin ma première fille, je l'ai baignée plein de fois après. Et je sais comment on fait un bain, mais le bain à l'hôpital, après la naissance, tout ça, ben en fait, j'avais jamais fait. Et,
Et ils sont vraiment petits aussi quand même. Enfin, il y a quand même cette dimension, cette baignoire qui est, elle n'est pas énorme, mais je veux dire, eux, ils sont quand même vraiment petits, quoi. Oui. Donc c'est
après ils font on fait le bain à la maternité parce que pour montrer les gestes, mais sachez que le bain à la maternité n'est pas obligatoire et n'est pas essentiel. Faut savoir que le vermix qui protège la peau de bébé dans le ventre de la maman protège aussi la peau de bébé en dehors de ça protège la peau de bébé voilà. Et en fait, si on vient nettoyer ce vermix, qui est censé être absorbé par la peau pour être protégé de toute
agression,
merci, du coup, la peau peut être un peu plus fragile. Donc voilà, vous pouvez faire le bain à la maternité, mais ce n'est pas essentiel.
Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Alison, c'est que ça relève aussi de... Parce que moi, j'ai fait les deux, c'est-à-dire de faire le bain à la maternité ou de ne pas faire le bain du tout à la maternité. Il y a, comme c'est un apprentissage aussi, que ça fait partie, tu sais, les étapes, quoi. Tu regardes ton test de grossesse, tu es enceinte, tu fais les rendez-vous, tu fais les échographies. Tu as un truc aussi un peu ritualisé, en fait. Et en fait, quand il sort et ensuite lui faire le bain, je comprends que si tu ne l'avais pas fait avant ou alors que... Enfin, que ce soit pour la première, deuxième ou le troisième, c'est... Il y a un petit truc de contact à nouveau avec cet être-là qui est à l'extérieur de toi. C'est quand même magique, ce truc-là. Enfin, je ne sais pas si tu me rejoindras, Alison, là-dessus, mais faire pousser un être humain. Tu vois ?
Oui.
Comme un arbre, quoi. Je veux dire, tu fais pousser en intégralité un être humain à l'intérieur de toi. Et ensuite, tu le vois là... Moi, j'ai des images là de mes enfants que je vois là en train de respirer à côté. Tu sais, le truc de dedans-dehors, il y a un truc complètement philosophique, métaphysique,
la magie du corps humain.
Tu vois, voilà. Et donc, de lui faire prendre le bain, il y a aussi ce truc-là de vouloir aussi se détacher et en même temps se réattacher d'une certaine manière. Mais je comprends aussi le fait que ça ne soit pas forcément nécessaire. Je ne l'ai pas fait pour ma dernière, donc voilà, mais... C'est pas forcément nécessaire, on peut le faire autrement.
Oui,
après, mais je comprends on peut, le rituel.
En fait, il y a aussi l'aspect du bain où en fait, il y a un échange de regards, il y a une complicité, il y a la création d'un lien. Donc, on peut faire le bain à la maternité. Faites le bain à la maternité si vous avez envie de le faire. Sachez juste que ce n'est pas obligatoire, mais aussi il y a d'autres possibilités. Vous pouvez faire le bain sans forcément savonner bébé.
Oui, c'est ça. On peut l'immerger en fait, voilà, tout simplement, juste pour avoir ce moment-là. Puis je me dis que lui, pour se retrouver à nouveau dans du chaud, pouvoir se replier, parce que souvent ils reprennent la position aussi fœtale, c'est aussi important, ne serait-ce que pour le développement au niveau du ventre, hein, parce qu'ils ont souvent des coliques, des choses comme ça, donc ce genre de positionnement, ça peut être intéressant.
Puis sur le plan émotionnel aussi, c'est...
Donc je ne sais pas comment toi tu l'as perçu, quels ont été peut-être les gestes, ou alors peut-être que là c'est un peu trop intime, mais avec ta fille, du coup, comment ça s'est passé à ce niveau-là pour toi, Alison?
Et en fait, il y avait, je rejoins ce que tu dis de, elle était à l'intérieur de moi et maintenant, elle est dehors et en fait, c'est quelqu'un que je connais mais que je connais pas. Il y a ce truc de, il faut qu'on, d'une certaine façon, qu'on apprenne à vibrer en résonance, tu vois. Mmh. Genre que je comprenne ta vibe et que tu comprennes ma vibe.
Et qu'on arrive à surfer ensemble.
C'est une redécouverte.
Exactement. Et il y a vraiment ce truc, c'est bon, en fait, genre, entre guillemets, t'es quel type de bébé, toi?
Oui, c'est ça. Et puis lui qui dit, mais toi, t'es quel type de maman, du coup? Parce que c'était sympa, les câlins, la chaleur, le bain à 37, tout ça, merci. Mais du coup, tu es quel type de maman aussi? Et toi, tu es quel type de bébé? Mais surtout, j'ai l'impression que c'est une question qu'on ne... À partir du moment... Alors, il y avait une maman qui m'avait dit, mais de toute façon, les enfants s'inquiètent tout le temps. Je dis, à partir du moment où je l'ai eu, je me suis inquiétée. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi, à partir du moment où ils sortent, il y a une partie de toi... un peu comme dans le deuil, qui comprend que tu pourras jamais comprendre totalement ton enfant et que tu vas toujours devoir surfer dans les vagues, tu vois. C'est, il y a jamais un moment donné où ça va s'arrêter où tu vas dire, je sais qui j'ai en face de moi, c'est bon, je le connais par cœur. Si tu dis ça, c'est un peu prétentieux, parce qu'en fait, tu connaîtras jamais totalement ton enfant et ton enfant ne te connaîtra jamais totalement. Moi, je sais que ma fille, elle peut être mal parce qu'elle me dit, mais je sais pas comment t'étais toi avant. Je te connaissais pas toi avant. Qu'est-ce que t'as vécu? Je suis pas d'accord, moi. Je trouve pas ça juste de pas connaître ta vie d'avant, maman. Et pourtant, c'est pas faute de lui en avoir parlé. Mais elle trouve que c'est dommage d'avoir manqué ça. Sauf qu'on sait chacune que moi, il y a des parties de sa vie que je ne connaîtrai jamais parce que je ne vais pas arriver jusqu'au bout de son âge à elle. Et elle ne connaîtra pas des parties de ma vie parce qu'elle n'était juste simplement pas là, qu'elle ne ressemblait même pas à un pauvre haricot. Donc, voilà, oui. Je trouve que cette frustration... Et aussi ultra poétique, parce que du coup, tu ne peux pas dire que tu connais l'autre. Tu peux juste dire que tu as été à ses côtés.
Exactement, que tu l'as accompagné et que tu as vu et profité de ce que tu avais en fait quand tu étais là.
C'est ça. Ça remet un peu les choses au niveau... On devient plus philosophique depuis l'interview aussi avec Aymeric, j'ai l'impression. Non, mais d'aller au-delà de ça, parce que du coup, une fois que voilà, t'as eu les premiers soins à la maternité, ton mari, donc du coup, t'as rejoint après, comment ça s'est passé?
Alors, oui, en fait, il était avec moi et... que ma fille, elle est née très tôt le matin, vers 5h du matin. Donc, au cours de la... Enfin, après, il était avec moi, et puis au bout d'un moment, il est reparti, puisqu'il fallait voir pour la grande aussi. Il y a eu ce moment de présentation entre la grande sœur et la petite sœur. c'était très touchant, d'ailleurs... de les voir ensemble, de voir comment elle voulait déjà prendre soin d'elle, comment elle a mis, parce qu'on lui a fait tenir sa petite sœur, donc comment elle la tenait, et puis elle, avec sa main, lui caressait le visage, et tout,
c'est... c'est génial, ça, de pouvoir observer ça, quoi. Les moments d'attention, où tu sais que... Ce que j'aime, moi, dans la parentalité, c'est le moment où tu ne... peux pas contrôler. Tu peux que laisser faire. Tu peux que être dans l'observation de ce genre de gestes. Tu sais, tu leur as pas demandé comme genre fais un bisou à tati, dis bonjour à la dame ou je ne sais pas quoi. Ils font ça. C'est de vouloir être en proximité de leurs frères et sœurs ou avec toi ou tu vois d'avoir des gestes profondément empathiques sans que t'aies rien à demander et que ça ne vienne pas forcément de toi. Juste ça vient de. C'est, tu sais moi le truc de venir de l'être humain quoi en fait. L'être humain foncièrement. à ce genre d'attention.
Et c'est des gestes totalement naturels, c'est ça qui est dingue, quoi.
Oui, c'est pour ça que je trouve ça complètement aberrant qu'on dise qu'un enfant peut naître avec son caractère qui peut être un peu mauvais. C'est pas possible.
Non.
C'est pas possible. Je pense qu'on est totalement parfait, entre guillemets. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parfait comme on n'aime pas 20 sur 20. Au bout d'un moment, 20 sur 20 existe. Et je suis sûre que la perfection existe. Ça s'appelle le sublime en physique. C'est pas pour rien. Mais juste, l'enfant arrive comme ça. C'est déjà plein de cadeaux sublimes et de perfection, en fait, à un instant T. Ouais. Et après, il y a d'autres choses qui s'appellent la vie, le sens de la vie, les événements, l'environnement, les expériences qui font que ça peut un peu abîmer ce genre de perfectude.
D'authenticité.
Mais j'avais envie d'inventer un mot. C'est de perfectude. Parce que je le vaux bien. J'ai le droit de dire ça, parce qu'en fait, on ne sait pas. Je peux me faire suivre par Paris. Non, mais voilà, je me dis... j'avais envie de dire ça, parce que je pense que... n'oubliez pas, les parents, qu'il y a plein de choses à faire. De s'occuper des enfants, de faire les soins. Il y a plein de choses. On est toujours occupé. À partir du moment où t'as le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le dixième, t'as toujours plein de trucs à faire. Mais il y a des moments comme ça, sucrés, sympas, de perfectude, qui font que du coup, tu te sens super bien, quoi. Parce que tu te dis, je suis devant la vie.
Ouais. Et ces moments-là, faut les mettre sur pause et ne faire qu'observer.
Et les regarder, pas prendre le téléphone pour pouvoir faire une photo. On s'en fiche. Ton téléphone, tu t'en fiches. C'est
les
pas
souvenirs,
ça qui va rester.
C'est dans la tête.
C'est voilà. Tu vas partir avec tes souvenirs. Tu vas partir avec ce genre de truc. Tu pars avec beaucoup de choses. Tu peux partir avec des regrets. Tu peux avoir regretté de ne pas avoir vu ces moments-là. Mais tu peux partir avec le fait de te sentir contenté d'avoir pu profiter de ça. J'aimerais qu'on refasse une petite pause. Parce que, de toute façon, on doit avoir deux pauses musicales à l'intérieur d'une émission d'une heure. Donc, si vous le voulez bien, les filles, et vous n'avez pas le choix, on va faire une pause. Et on se retrouve
à
après.
À toutes.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song.
Nous sommes de retour sur Calade pour la pause maternelle, votre rendez-vous maternité mensuel tous les premiers lundis du mois. Nous allons terminer cette dernière partie d'émission avec Alison qui était venue nous raconter sa deuxième maternité. Et du coup, je te propose qu'on termine, si tu es d'accord avec ça, sur comment tu envisages les choses maintenant dans ton rôle de maman et ce que t'a apporté ces deux maternités différentes.
Alors, moi, ce que j'ai appris déjà, c'est que je ne suis pas la mère que je pensais que je serais, déjà, pour commencer.
Je crois que ça, c'est un truc dont on se rend toute compte une fois que bébé arrive. Ah mince, c'est pas ce que je voulais être.
C'est ça. Tu penses à toi et en fait, c'est Drusilla, ta sœur jumelle.
Mm-hmm. Voilà.
Et c'est OK, hein. Vraiment, c'est déculpabiliser les mamans. Hein.
C'est Drusilla qui t'a... Je le savais.
Tout à fait. En fait, c'est deux expériences différentes. Et je dirais que la première m'a plus marquée, mais forcément, puisque c'était entre guillemets moins agréable. La première m'a montré que, en fait, il y a des moments difficiles, mais ça passe. Et ouais, il faut juste être présent. Et c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai été présente avec elle tous les jours. Et c'est pas agréable, mais ça passe. Et au final, quand elle est rentrée à la maison, genre, t'es un bébé hyper calme, hyper posé, genre, hyper détente. C'était vraiment... C'était très relaxant, finalement, presque pour moi, quand on est rentré à la maison.
Après, t'es quand même quelqu'un d'assez relaxé, qui pose les choses, qui peut poser un cadre aussi. Donc, je pense que ton bébé a pu le ressentir, même si ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de toi, il n'y avait pas une espèce de tempête et une bourrasque ou quoi que ce soit.
Oui,
mais
voilà.
D'un naturel, je pense que même les personnes qui nous écoutent là vont se rendre compte de,
ouais, ça se sent.
De ton calme, tu vois.
Oui.
Même si c'est du faux calme des fois, mais oui. Tu vois ce que je veux dire.
Voilà. Tu restes une humaine. Hein.
Voilà, ce n'est pas un cyborg hein, que l'on a ici, c'est bien Alison et c'est une humaine.
Exactement. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien en fait que, au final, en rentrant à la maison, qu'elle soit, elle semblait en fait être bien, être posée, et donc ça m'a comme réconciliée avec tout ce que j'ai vécu avant. Et pour la deuxième, en fait, ça m'a permis réellement de, entre guillemets, je sais, je dis ce mot, mais de vivre un truc normal.
Normal, en fait. Je savais. Normal.
De vivre, entre guillemets, cette expérience pleinement et de façon, je vais dire, beaucoup plus agréable que la première. Et en fait, oui, c'est la maternité. Être mère, c'est une expérience.
Tout à fait.
Alors moi, je pense qu'il faut aussi pas fustiger le mot normal. C'est pas grave, en fait. Je trouve que c'est bien de dire j'ai vécu quelque chose de normal. Ben forcément, puisque avant, c'était une espèce d'expérience qui était en dehors du normal, c'était paranormal. Il y avait quelque chose. À un moment donné, tu as un schéma, tu imagines quelque chose et il y a un caillou qui arrive dans la chaussure qui n'était pas censé être là. Donc ça crève la normalité. En fait, ça crève le truc que tu imaginais. Donc, effectivement, tu peux dire normal. C'est simplement sur des termes, des machins, parce qu'en plus, on est embêtante. Et que du coup, voilà.
Oui, on chipote.
On chipote. On adore chipoter depuis le temps qu'on est là maintenant. Vous savez qu'on aime bien chipoter. Mais en vrai, le cerveau aime ce qui est normal, ce qui rejoint le calme qui fait qu'il n'y a pas forcément de désordre. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il se sent le mieux. C'est-à-dire que plus tu vas créer des habitudes, plus tu vas créer quelque chose d'attendu, et mieux ça va aller. Parce que lorsqu'il y aura une situation qui sera en dehors de la normalité...
De
notre normalité et des codes qui sont afférents aussi à la normalité, parce que je parlais aussi de manière aussi plus sociétale, et bien là, en fait, le cerveau sera préparé pour faire face. Parce qu'il aura travaillé sa résilience, il aura travaillé une certaine forme de volonté, en sachant que ce qui serait faux, c'est de croire que la normalité, c'est que ça enlève une part de travail, une part de rudesse de la vie, alors que c'est rude. Il y a des choses qui sont dures, il y a des choses qui peuvent être difficiles. On peut l'avoir en tête, mais on peut essayer d'avancer. Et du coup, faut juste se préparer psychologiquement à ça. C'est aussi considérer que la normalité, c'est chouette. Voilà.
Mmh.
Et le goûter.
Tout à fait. Et il y a eu ce truc vraiment de... De toute façon, genre, ça va aller. Genre, j'ai déjà vécu ça la première fois. La deuxième fois, genre, elle est bien arrivée. Il n'y a pas eu de problème. Oh, ça va aller. Ça va passer de toute façon. Donc il y avait vraiment ce truc de... De toute façon, maman, c'est easy, en fait.
Et du coup, quand elle est rentrée à la maison, est-ce qu'elle était aussi easy?
Franchement, les deux, j'ai pas eu des bébés.
Bon, très bien, Alison. Au revoir.
Tu es en train de casser le mythe du deuxième bébé qui est plus énervé, plus présent, qui pleure beaucoup.
Parce qu'il n'a pas sa part et tout ça. J'adore. Merci beaucoup, Alison. Je savais que tu allais répondre ça. Merci.
Mais en fait, ça s'est vu et ça s'est remarqué, mais dans son caractère. C'est-à-dire que c'était pas... Dans la personnalité qu'elle a, ma deuxième, elle est beaucoup plus affirmée, elle a beaucoup plus d'énergie que la première. Mais en tant que bébé, c'est pas forcément ça, mais dans sa personnalité, oui. Elle était beaucoup plus affirmée, vis-à-vis des nuits, tout ça, machin. Enfin, franchement, dans l'ensemble, ça s'est bien passé pour les deux. Elle, quand je parle de caractère... je l'ai allaitée 6 mois parce que elle trouvait, et c'est mon interprétation, mais téter le sein, le lait, il prend trop de temps à venir, ça me fatigue, je préfère prendre le biberon.
Donne-moi le biberon, c'est beaucoup plus rapide, la fontaine de jouvence, c'est trop bien.
Exactement, et alors que la première, c'était pas ça. Et donc, c'est en ça où je dirais, sa personnalité, c'est manifesté vachement de façon beaucoup plus forte.
J'adore que tu dises que ce soit sa personnalité qui s'est manifestée. Parce que du coup, tu sors de l'inné et l'acquis.
Ouais.
Tu sors de cette idée que le bébé sort tout formé, tout ci, tout ça. Enfin, tu vois,
avec son caractère.
Soit tout vide avec un vase à remplir, soit tout fait et en fait, il devrait comprendre tout de suite. Non, tu dis là, c'est le bébé et ensuite sa personnalité. La personnalité, c'est quelque chose qui se forme au fil du temps aussi.
Donc, qui évolue.
Et qui est différente du caractère, parce que le caractère, il y a des choses aussi. Voilà, tu peux pas prendre des caractéristiques là-dessus. Je trouve que le choix de tes mots est intéressant, notamment lorsque tu parles de tes enfants, parce qu'on peut avoir certains discours qui pourraient culpabiliser l'enfant ou culpabiliser la mère, ou tu vois, où ce serait difficile. Alors, de par ton métier, je sais que c'est quelque chose que tu sais faire et que le choix des mots pour toi, c'est quelque chose de très important, parce que les mots veulent dire quelque chose. Mais je trouve que c'est important aussi quand on parle de nos enfants.
Tout à fait. Du coup, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et oui, donc, je ne sors pas du mythe, mais j'ai eu cette expérience, moi.
Mais si, sors du mythe, c'était bien de dire « Non, mon enfant, il est bien aussi, là !»
Je ne sors pas du mythe, parce qu'effectivement, elle a le sentiment que ça me donne, c'est que ce deuxième enfant a besoin de s'affirmer davantage avec l'ensemble des protagonistes qui sont là avant lui. Donc, il a besoin de s'affirmer davantage, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont beaucoup plus... ils ont une personnalité beaucoup plus présente et forte, et je pense que c'est dans ce sens-là. Et voilà. Et sinon, au niveau de ce que ça m'a apporté, je pense que ma maternité, que ce soit mes grossesses, accouchements ou même aujourd'hui, le fait d'être une mère de ces deux grandes filles, c'est que je suis quelqu'un de beaucoup plus patient, fort et aussi plus vulnérable, tout ça mélangé. Voilà.
Tu as osé mélanger le mot fort et vulnérable.
Et patience.
Ouais.
Sacrilège.
Combien de temps il faut pour acquérir la patience, s'il te plaît?
Non, alors je ne dis pas que je c'est quelque chose que je maîtrise. Je dis que ça travaille ma patience.
Ouais.
C'est ça que je dis.
Mais c'est quand même. J'ai trouvé très intéressant que tu mélanges la force et
la vulnérabilité.
Et la vulnérabilité, qui sont souvent opposées, en fait.
La force, tu dirais que c'est pourquoi, du coup?
Force parce que en fait ça m'a poussé, enfin la maternité me pousse dans des retranchements, enfin dans des zones dans lesquelles où je serais jamais allée, et ça m'oblige finalement à faire preuve d'une certaine force, autant de caractère, autant vis-à-vis de l'extérieur par rapport à mes enfants, de force. Ouais. On pourrait dire courage, mais j'ai envie de dire force.
Et la vulnérabilité, ça viendrait de quoi ?
La vulnérabilité, parce que le fait d'être une maman avec les enfants que j'ai m'a renvoyé beaucoup de choses à moi-même, en réalité. La nécessité de travailler des choses, de... En vrai, je suis devenue mère, mais je pense que je ne me connaissais pas moi-même avant. Et ça m'a poussée à me regarder davantage, de façon à travailler sur moi et à être, je dirais, une maman plus en accord, de façon à accompagner au mieux mes enfants. Donc, vulnérabilité vis-à-vis de moi, oh, voilà.
Et est-ce que tu penses que le travail... Non, c'est génial. Est-ce que tu penses que le travail... est terminé ou est-ce que comment
pas
tu prépares la suite, comment tu prépares la suite, comment tu envisages les choses pour l'après, pour la suite quoi?
Alors le travail n'est pas terminé parce que ben elles grandissent, elles vivent des choses différentes et donc il y a des choses différentes qui s'expriment, qui se montrent sur mon chemin. Donc non, le travail n'est pas terminé. Aujourd'hui, donc mes filles, pour vous dire, la grande, la semaine prochaine, va avoir 12 ans, la petite a 8 ans. Et aujourd'hui, je suis challengée à d'autres niveaux sur les émotions, sur qu'est-ce qui reste de l'ordre de... elles et elles seules, qu'est-ce qu'elles sont OK pour partager avec moi, qu'est-ce que, enfin, il y a toute une dynamique en réalité qui change, mais parce que la relation change, parce qu'elles grandissent, parce qu'elles évoluent, et moi aussi, en fait, dans tout ce processus. Et donc, à chaque fois, il y a une forme de réajustement qui est nécessaire de faire, parce qu'elles changent, et moi aussi. Ce que je dis à mes filles, souvent d'ailleurs, quand je suis au bout de mon rouleau, je leur dis, écoutez, je suis un être humain comme vous et je fais juste ce que je peux. Voilà, c'est tout.
Exactement.
Merci.
Et c'est ça le mot de la fin.
Voilà, c'est ce que j'ai. Exactement. Hey, j'adore. En plus, c'est toi maintenant qui dis le mot de la fin. Tu vas venir animer l'émission avec nous, Alison. Donc, bah, du coup, jingle alors.
Eh bah, ben, jingle. Merci beaucoup, Alison, d'être revenue témoigner au micro de la pause maternelle. C'était un plaisir pour nous de te recevoir et de nous partager ton aventure dans la maternité. Et aussi d'avoir mené à la réflexion de la maternité et de la parentalité. En général, mène à l'évolution de l'être humain que nous sommes et qu'on évolue tout au long de notre vie.
Yes.
Et puis, bah, sinon, on se retrouve tous les premiers lundis du mois de 10h à 11h sur Calad. En attendant, vous pouvez nous envoyer vos témoignages à l'adresse de l'émission qui est lapausematernelle@outlook.fr. Et on vous souhaite une bonne journée. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
La pause maternelle.